Hello Zakaria, comment ça va? Hier, tu me demandais quel était le rapport entre fintech et inclusion financière en Afrique. Bon, je vais t'expliquer ça en note vocale. Premièrement, on va définir pour bien comprendre ce que c'est. Déjà, qu'est-ce qu'une fintech? Beaucoup en parlent, personne ne sait très bien ce que c'est. On va résumer ça en disant que c'est la technologie au service de la finance ou du moins des services financiers. L'équivalent des entreprises et de leurs solutions qui vont utiliser les nouvelles technologies pour optimiser les services financiers, en gros. Donc, ces fintechs vont répondre à des besoins spécifiques dans le secteur bancaire et financier ou répondre à des nouveaux marchés. Donc, par exemple, en Europe, les fintechs se sont concentrés sur les nouveaux usages, notamment. Tu vas avoir des fintechs dans le paiement, l'assurance, le transfert d'argent, entre autres, ou plus simplement celles qui vont améliorer le parcours client. Sur le continent africain, c'est différent parce que les besoins sont différents. Donc, tes solutions seront forcément différentes. La sous-bancarisation et le manque d'infrastructures ne permettent pas à la majorité de la population d'accéder aux services financiers de base. Exemple, avoir un compte. Déjà, la majorité des banques et de leurs agences bancaires sont limitées aux grandes villes, ce qui va engendrer forcément une fracture géographique. Tu vas avoir toutes les populations rurales qui représentent quand même une grande majorité de la population, qui vont se retrouver privées finalement des services financiers de base. En plus, les banques traditionnelles affichent des prix décourageants et surtout, un point qui est extrêmement important, c'est que la bancarisation est souvent synonyme d'insertion dans l'économie formelle. Mais l'économie informelle représente jusqu'à plus de 50% si tu veux des PIB de certains pays du continent, donc c'est un peu compliqué. Dans ce contexte-là, les fintechs sur le continent vont se positionner plutôt entre le client et l'acteur historique qui est la banque pour offrir leurs services financiers de base à des personnes n'ayant pour la majorité pas de compte bancaire. Tout ça, c'est le contexte, ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle devait se baser sur quelque chose, une technologie déjà existante, qui est celle du téléphone. En Afrique, on a un taux de pénétration, plus simplement, c'est le pourcentage de personnes qui ont un téléphone, de plus de 92%. Donc, le développement de ces fintechs, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup positionné grâce au mobile, finalement, et notamment dans le paiement. On appelle ça le mobile money. C'est un service qui va permettre d'accéder à des services financiers par l'intermédiaire de ton téléphone. Donc, les services monétaires mobiles peuvent être divisés en trois grandes catégories. Tu vas avoir en gros les transferts d'argent, les paiements et les services financiers. Donc, aujourd'hui, tu peux payer avec ton téléphone tes factures, recevoir de l'argent, envoyer de l'argent, tout ça sans compte bancaire, même si bon, quand on a, ils ont quand même besoin d'un établissement bancaire, mais je l'expliquerai dans une autre note. Ces fintechs ont dû aussi s'adapter à la fracture numérique qui existe sur le continent. Donc, tout le monde n'a pas accès à Internet. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer de l'argent si finalement c'est via une application qui nécessite Internet? Bon, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont positionnés sur un autre moyen qu'on appelle les codes USSD. Donc, ça te permet d'envoyer un texto et via ce texto, tu envoies finalement de l'argent. Pareil, je t'expliquerai ce que c'est qu'un USSD dans une note vocale, mais schématiquement, c'est les codes que tu envoies avec des dièses et des étoiles qui vont te permettre de déclencher des actions sur ton mobile à distance en envoyant des demandes et des informations via le réseau. Pas le réseau Internet du coup, mais le réseau mobile. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que l'inclusion financière et pourquoi finalement c'est si important? Alors, la Banque mondiale, par exemple, définit le concept comme la possibilité pour les individus et les entreprises d'accéder à moindre coût à toute une gamme de produits et de services financiers qui leur seront utiles, adaptés à leurs besoins. Donc, transactions, paiements, assurances, crédits, et qui est notamment proposé par des prestataires fiables et responsables. L'accès à un compte d'opération courante, déjà une première étape pour ce qu'on va appeler l'inclusion financière. Ça te permet de déposer de l'argent, d'en envoyer, de recevoir des paiements, notamment le salaire. Donc, pour accéder à ces produits et services financiers, enfin, en tout cas, accéder à ces produits et services financiers, ça va faciliter le quotidien des ménages, mais aussi des femmes finalement, puisqu'elles vont pouvoir avoir accès de manière indépendante à leur salaire, protéger leurs dépenses, protéger leur argent, dépenser comme elles l'entendent, et la plupart du temps pour les besoins de la famille. Donc elles vont investir dans l'éducation, la santé, elles vont pouvoir aussi épargner. Ça va aussi aider les entreprises à anticiper le financement d'objectifs de long terme, donc demander notamment des financements, faire face à des imprévus parce qu'elles vont pouvoir épargner. Et surtout, ça va ouvrir la possibilité de recourir à tous les autres services financiers, donc les crédits, l'assurance, développer aussi l'entreprise grâce à ces crédits. Et tous ces facteurs vont globalement améliorer le niveau de vie. Et en améliorant le niveau de vie, on améliore aussi l'économie, qui va aussi en bénéficier. Donc, ça renforce les activités économiques, potentiellement permet aussi de renforcer l'épargne publique et surtout d'accroître les dépenses sociales. Bon, tout ça pour dire que, in fine, l'inclusion financière réduit la pauvreté et les inégalités. Toutes les études vont te dire que l'amélioration du niveau d'inclusion financière à travers l'extension des services, financiers notamment, et de paiement, contribue à une croissance économique durable. Donc, l'argent mobile, dans notre cas, facilite l'inclusion financière des populations. Même si on ne dit pas que l'inclusion financière est l'instrument unique finalement contre les inégalités et la pauvreté, c'est un pilier parce que sans inclusion financière, l'ensemble des autres actions menées va perdre, si tu veux, considérablement son efficacité. Puis en plus de ça, l'argent mobile va aussi faciliter l'inclusion financière des populations de zones rurales qui représentent une grosse partie des populations en Afrique. Et ces populations qui sont isolées, qui n'ont pas forcément accès à ces services, ça peut favoriser leur accès aux programmes publics de transfert sans devoir parcourir de longues distances. Donc, par exemple, les aides sociales vont pouvoir être envoyées via l'argent mobile à ces populations. Maintenant, pour que ces fintechs continuent de se développer, la pierre angulaire, si tu veux, de ça, ce sont les États, parce que les États ont un rôle à jouer, et notamment dans les stratégies publiques d'inclusion financière, qui sont aujourd'hui encore trop timides. Il faut qu'il y ait une stratégie de communication institutionnelle, que l'État, à travers notamment les banques centrales, communique pour asseoir une crédibilité de ces nouveaux moyens. Parce qu'aujourd'hui, certaines populations ont largement adopté le mobile money, d'autres sont encore un peu plus timides. Et c'est grâce à l'État et à sa communication institutionnelle que ces populations vont finalement utiliser ces nouveaux moyens. Donc, par exemple, dans certains pays du continent, les aides sociales sont versées sur un wallet. Et les fonds versés pourront être utilisés, donc le wallet, c'est le portefeuille dématérialisé, donc on leur envoie via leur mobile money. Les fonds vont être utilisés pour l'achat de biens, de services via le paiement mobile auprès des commerçants de proximité. Ils vont pouvoir retirer les sous auprès des guichets. Et dans d'autres cas, le paiement mobile, le mobile money, est utilisé pour payer les factures d'eau, l'électricité, les frais universitaires, les bourses aussi. Donc, envoyé via le paiement mobile, via le mobile money. Et puis, tu as aussi des plateformes e-gov de certains États qui ont tout dématérialisé, tout digitalisé, du moins, en termes de paiement. Donc, cette communication permet encore aux plus récalcitrants de se saisir des opportunités et surtout de promouvoir des solutions qui peuvent changer la vie de tous.